C'est le mag du pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de tradition populaire. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr, dans l'onglet Les émissions. Midi-Quercy, toute une histoire.
Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder les constructions, l'urbanisation le Moyen-Âge, quoi, entre le 7e et le 13e siècle, en gros, avec Florent Hautefeuille, maître de conférence à l'université Jean Jaurès. Ne la cherchez pas, c'était l'ancienne université Toulouse-le-Mirail, hein, on a juste renommé, c'est la même. Bonjour, monsieur Hautefeuille.
Bonjour.
Alors, notre pays, notre territoire du pays Midi-Quercy comprend un grand nombre de villages qu'on dit médiévaux, même si sur certains quartiers sont des bastides, puisque en général, les maisons en bois ont brûlé, et puis quand on a reconstruit, par la volonté du roi, il y a eu des choses bien carrées, etc. Ce qui n'est pas la caractéristique en général des cités fortifiées, par exemple, puisque le long des gorges d'Aveyron, c'est ce que nous avons. Vous avez étudié, vous êtes un spécialiste de cet habitat-là, et vous nous dites, avant de commencer, on ne se rend pas compte à quel point il fallait être riche pour construire des choses pareilles.
Oui, ce qui est caractéristique de la région, c'est une richesse globale qui existait au 13e, alors probablement dès le 12e siècle, mais on a plus de mal à la mesurer. Et à partir du 13e et au moins jusqu'au milieu du 14e siècle, c'est un pays qui est vraiment un pays de cocagne au sens où il y a une richesse qui ressort et qui transparaît de la documentation écrite, et puis qui surtout qu'on peut voir à partir de l'architecture conservée, hein, puisqu'on conserve dans ce secteur des centaines de bâtiments médiévaux, qui sont tous des bâtiments remarquables, très souvent. Et cette architecture, qu'on voit par ailleurs souvent à travers l'architecture religieuse ou l'architecture castrale, pour ce qui est l'architecture civile, elle dénote cette richesse, qui est une richesse liée à la présence de marchands, hein. La plupart de ces maisons sont liées à une bourgeoisie marchande très très active au XIIIe et au XIVe siècle.
Alors pour ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire le peuplement, l'urbanisation finalement, est-ce que le cadastre était déjà dessiné ou est-ce que justement en reprenant tous ces transactions, ces héritages, etc., on peut redessiner un cadastre prospectif comme on pourrait le faire aujourd'hui en vidéo, voir comment un village s'est étendu, détruit, reconstruit?
Alors, ce point-là, c'est un enjeu qui est important. C'est une thématique qui, moi, m'est très chère, parce que j'ai développé un gros programme de recherche là-dessus, sur la modélisation des données cadastrales anciennes, puisqu'on dispose, pour la région, de cadastres donc aboutis et complets uniquement au XIXe siècle. C'est le cadastre dit napoléonien, qui en fait n'est pas napoléonien, mais la plupart du temps postérieur à l'époque de Napoléon. Mais on dispose également, dans un certain nombre de secteurs, de plans cadastraux au XVIIe, au XVIIIe siècle. Un des plus anciens conservés pour la région, c'est celui de Saint-Antonin, qui est un plan des années 1670, qui est antérieur au plan de Toulouse, par exemple, qui était lui-même considéré comme déjà un plan extraordinairement ancien. Et alors surtout, on dispose d'une documentation fiscale, donc ce qu'on appelle des compois ou des cadastres, qui est remarquable et très ancienne dans la région, puisqu'on a des documents dès le XIVe siècle. C'est-à-dire qu'on a des documents qui donnent une image, alors c'est une image écrite, c'est pas une image sous forme de plan, mais qui donne une image écrite, décrite, en fait, du paysage bâti, mais aussi du paysage agraire, à la fin du XIVe siècle. Et donc on peut avoir, à partir de ça, une visualisation de l'espace, l'espace des constructions, l'espace des champs, espace social également, puisque du coup on a une idée de l'organisation de la propriété, à la fin du XIVe. Et plus ponctuellement, on peut, mais là c'est loin d'être systématique, on peut avoir des informations de ce type à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe. J'ai moi-même travaillé sur un village déserté que j'ai en partie fouillé, un village qui était documenté pour chacune des maisons. C'est-à-dire quand je fouillais un petit village au sud du Lot, qui s'appelle la Grolière. Et quand on fouillait, on savait chez qui on était, puisqu'on avait une documentation. En gros, il n'y avait pas la boîte aux lettres, puisque ça n'existait pas, mais on connaissait le nom des gens qui avaient résidé là, à la fin du XIIIe ou début du XIVe siècle. Du coup, on connaissait leur position sociale, on connaissait l'organisation de leur exploitation agricole, leurs activités. Évidemment, il y a une mise en perspective possible de ce qu'on trouve comme vestige archéologique, qui est extraordinaire grâce à cette documentation écrite. Et je trouve que la richesse de la région, c'est justement cette capacité à croiser les sources écrites, les sources fiscales et la documentation archéologique souterraine, mais aussi en élévation, puisque ce qu'on disait en introduction, le nombre de maisons conservées est tellement extraordinaire qu'on peut faire une étude simplement à partir des élévations.
Alors, Florent Hautefeuille, justement, au XIIIe siècle, est-ce qu'on sait ce qui préside à, par exemple, une croissance démographique? Vous nous avez dit il y a des riches qui construisent de belles maisons, et ça se voit, avec des arcades, avec des fenêtres gemmellées, avec je ne sais quoi. On va en parler, du je ne sais quoi. Mais, par exemple, entre un lieu habité et un autre lieu habité, à quoi ressemblent les routes à cette époque-là?
Alors, d'abord, il faut imaginer que le monde de la fin du XIIIe siècle, c'est un monde plein. C'est-à-dire, c'est un monde qui, dans certains secteurs, est probablement plus habité qu'il ne l'a jamais été, y compris au XIXe siècle. Il y a des zones où on a une densité de population qui est extraordinaire. Non pas par la multiplication des points d'habitation, des masses ou des fermes isolées, mais par le fait qu'on a des masses qui sont peuplées parfois par 10, 15, 20 familles, 30 familles. Là, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une ferme. Donc ça, c'est vraiment... il faut imaginer un paysage qui est très, très fortement habité. Ensuite, le réseau viaire, le réseau des chemins, n'est pas très éloigné de ce qu'on peut imaginer au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est des chemins, il y en a partout, mais vraiment partout. Le moindre masse est liée par des chemins. Il y a des chemins partout pour une raison simple, c'est que la structure de l'habitat est fondamentalement dispersée. Donc on a des chemins qui mènent au champ, à l'espace agraire, mais on a également beaucoup de chemins qui relient tous les points d'habitat, qui sont excessivement nombreux dans la région. Puisqu'on a souvent la vision traditionnelle de l'habitat du Moyen-Âge, c'est le village avec alors soit les fortifications, la bastide, le clocher. C'est pas du tout ce qui domine ici. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à dire, ici, les villages, ce sont des exceptions. Ce qui domine, c'est la trame de l'habitat dispersé, la trame des masses, des bordes, dans laquelle réside l'essentiel de la population. Et des agglomérations comme Caylus, Saint-Antonin, sont presque des anomalies.
Mais à chaque fois qu'on a un hameau, on a quand même une église.
Pas du tout.
Ah.
Absolument pas. C'est-à-dire que l'essentiel des hameaux ne sont absolument pas dotés d'églises. Alors, je peux pas vous donner des données absolument précises sur Saint-Antonin, mais j'avais fait des calculs sur d'autres secteurs. On a en gros un hameau pour entre 50 et 100 hectares. C'est-à-dire, c'est l'espace agricole minimum pour faire fonctionner une ferme ou un groupe de fermes. Donc, à l'échelle d'une commune comme Saint-Antonin, ça représente des centaines de lieux habités pour une dizaine de paroisses au Moyen-Âge. 10, 12 paroisses, ça dépend des moments.
Mais en cas de guerre, alors, on allait se réfugier quelque part ou on attendait que ça passe?
Alors, ça, c'est la situation du XIIe, XIIIe et XIVe siècle qui est caractérisée par une paix relative. Alors, c'est jamais une paix globale, il y a toujours des phases, des épiphénomènes.
Alors, pour la population qui habite, on l'a dit, par chez nous, dans un habitat dispersé, dans des hameaux, ouais, dans des fermes, etc., la fonction du village, c'est l'administration et le marché.
Exactement. C'est tout à fait ça. Vous avez résumé parfaitement ce que c'est. Le village, c'est l'administration et le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paysans aussi dans les villages, mais la fonction première des villages, ce qui distingue le village dans l'esprit des gens au XIIIe et XIVe siècle, c'est la présence de ce que nous on appellerait des services, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, l'aspect religieux aussi très souvent, c'est-à-dire qu'on va trouver l'église. Alors il y a aussi des églises qui sont totalement déconnectées des villages, hein. Il y a des églises qui sont complètement isolées, mais on va trouver, quand il y a une petite communauté religieuse, on va plutôt la trouver dans ces petites agglomérations, c'est là qu'on va trouver l'hôpital, c'est là qu'on va trouver toutes ces structures qui font qu'on a un lien social qui est maintenu, c'est là qu'il y a le seigneur très souvent, et c'est là surtout qu'il y a la communauté structurée avec les consuls. Donc toute l'organisation de la vie sociale se fait à l'intérieur de ces villages. Et les gens au XIIIe et XIVe siècle distinguent très clairement dans le vocabulaire qui est, il parle, alors pas en latin, puisque ce sont des textes latins à cette époque-là, ils utilisent le terme de villa pour désigner ce que nous on considère comme un village, et le terme de mas ou borde pour tout le reste. Mans ou Borda en occitan. Et donc cette distinction, elle est faite non pas en fonction de l'importance de l'agglomération, mais du statut qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des villas, des villages tout petits, mais par contre, les gens qui résident là-dedans, ça va être un notaire, deux bouchers, un forgeron. Et à côté, on va avoir des masses plus gros, mais par contre, les masses, ce sont des exploitants agricoles. Et cette distinction, elle est très très nette. Au XIIIe, XIVe et même encore, jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
Bon, on sait qu'il y aura des aléas dans la démographie après le XIIIe siècle. Bon, il y a les grandes pestes qui déciment toute la population européenne. Et donc, quelquefois, il y a des ruines qu'il faut repeupler. Comment ça se passe? Il y a une décision politique où on va voir les ayants droit qui veulent pas forcément exploiter la terre. On a l'exemple de Mouillac où il a fallu que les consuls choisissent des familles et leur attribuent des exploitations agricoles.
C'est une question qui est passionnante d'un point de vue historique. Hein. Le problème des dynamiques de peuplement et de savoir d'abord comment s'étiole un peuplement, parce que effectivement, on parle souvent de la peste. La peste a joué un rôle très certainement important, mais il est très difficile de le mesurer physiquement. D'un point de vue archéologique, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des traces de la peste. On connaît quelques charniers, on n'en connaît pas dans la région. Si on n'avait pas les documents écrits, ici, on serait incapable de repérer la peste par l'archéologie. Donc ce qu'on connaît, ce sont des traces écrites, mais aussi pas très nombreuses, de façon étonnante. On n'a pas des mentions sans illimitées de...
Parce que les notaires ont été décimés en même temps.
Non, parce que dans la documentation notariale, comment est-ce qu'on mesure la peste? On le mesure par un phénomène indirect, c'est les remariages.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on a une floraison de remariages quand il y a une crise de peste, quand il y a une période de peste, donc il y a beaucoup de couples où il y a un des deux qui disparaît, et on se remarie très très vite. C'est une règle au Moyen-Âge, et donc on voit quand on a des courbes, du coup, quand on a la documentation qui permet de repérer des remariages, on voit ces remariages très très actifs, et on voit une redistribution des terres. C'est-à-dire que après 1348, si on prend la documentation notariale, on a des pics de production liés aux échanges de terres, parce qu'on redistribue. Il y a des familles qui ont disparu, donc il y a une redistribution. Et le processus de disparition, dans un premier temps, il se fait en interne. C'est-à-dire qu'on a... il faut imaginer, des campagnes sont tellement peuplées que même s'il y a des pertes, disons que ça se compense. Il y a un moment donné, les densités deviennent moins fortes. Il faut imaginer que ceux qui résistent à la peste, du coup, ils n'ont plus du tout de problème de terre, parce qu'il y a beaucoup plus de terre. Et on dit toujours que ceux qui ont résisté, souvent, c'est des gens qui, finalement, pouvaient avoir un niveau de vie supérieur à ce qu'on avait avant, en raison de l'espace qui se libère. Hein.
Et qui, souvent, avaient des chevaux avant.
Alors, pour les paysans, c'est pas facile. Les chevaux, il n'y a pas beaucoup de chevaux, c'est surtout des vaches. Hein.
Et donc, bon, alors justement, ce statut social du paysan, on parle plus de serfs, ce sont des hommes libres.
Il y a les deux.
Ça évolue à cette période-là?
Alors, on continue à parler de serfs. Il y a des serfs dans la région, au XIIIe. Le servage disparaît, on considère qu'il disparaît justement au moment de la crise de la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire que les structures qui font que le servage se maintient au XIIIe et XIVe siècle, explose avec la crise. Et au XVe siècle, on ne voit plus de traces de servage. Les serfs, alors par contre, ce qui est surprenant, c'est que les serfs qui existent ici, qui sont attestés, sont pas du tout des serfs comme on l'imagine de façon classique. Ce sont plutôt des familles aisées.
Oui, ils ne sont pas des esclaves comme on imagine la guerre de sécession
absolument pas.
D'Amérique.
Ça n'a rien à voir. C'est un statut social particulier. Ils sont désignés par le terme de questo, plutôt que le terme de serf. C'est la questalité. On parle de questalité, et eux-mêmes se désignent sous le terme de questal, ou questal en occitan. Et pourquoi le questal? Parce qu'ils sont soumis à un impôt qui est la queste, qui est un impôt nominatif. Et il y a toute une série de contraintes qui font que ces gens ont un statut particulier. En particulier, ils ont l'obligation de résidence. Ils ne peuvent pas vendre leurs biens, comme les autres. Du coup, ils sont obligés de rester sur place. S'ils quittent leur demeure, ils peuvent quitter, mais ils perdent tout. Alors que les autres paysans ont un droit de propriété qui est comparable déjà à ce qu'on a, nous, sur nos maisons, sur nos champs.
En fait, c'est une originalité du droit de propriété.
C'est alors une grande partie il y a d'autres points remarquables, mais une grande partie de la spécificité des questeaux et des serfs des 13e et 14e siècles est liée à ce droit de propriété. Et c'est cette obligation. Il y a d'autres règles, hein, c'est assez compliqué, mais le point certainement fort, c'est ça. Et ce qui se passe, une des éléments certainement qui explique la disparition des serfs, c'est que donc il y a une désorganisation à partir du milieu du XIVe siècle. Hein. Il y a beaucoup de familles. Il y a des familles qui disparaissent. Il y en a d'autres qui migrent parce qu'il y a de la place ailleurs. Donc ils vont voir ailleurs ce qui se passe. Et il y a un autre élément aussi, c'est que les seigneurs se rendent compte que le fait de conserver des familles qui sont souvent devenues une famille assez riche, de leur conserver cette obligation de résidence et donc cette incapacité de vendre leurs biens a une conséquence sur les finances du seigneur. Pourquoi ? Parce que les seigneurs prélèvent des rentes sur les terres, mais ils prélèvent aussi des droits de mutation, qui sont très importants, parfois beaucoup plus importants que la rente elle-même. Quand une terre est vendue, le seigneur, actuellement c'est l'État, mais à l'époque c'est le seigneur, prélève à ce qu'on appelle les lots au Moyen-Âge, hein, qui sont des droits de mutation qui peuvent parfois s'élever pratiquement à la moitié de la valeur de la terre. Et donc le seigneur a tout intérêt à ce qu'il y ait un commerce de la terre.
Parce qu'il y a à la fois des droits de succession et de la plus-value.
Alors il y a la plus-value, mais la plus-value, ça ne le concerne pas. Il y a des droits de succession et ensuite il a la rente annuelle qu'il prélève, mais qui est souvent devenue presque théorique à cause de l'inflation. Donc quand c'est des rentes en argent en particulier, les rentes ont une valeur qui a beaucoup faibli au début du XIVe siècle. Et du coup, ce qui fait la richesse, c'est la vente. Et en libérant les serfs, il va rendre au marché de la terre toute une série de parcelles.
C'est un peu la naissance du capitalisme, mine de rien.
On n'est pas très loin de ça. Ce sont des aspects qui sont effectivement liés à ce qu'on pourrait appeler du proto-capitalisme. Les serfs, très souvent, sont des familles qui, parfois, ont basculé vers la bourgeoisie par le biais du commerce.
Alors, comment on le mesure, ça, ces hiérarchies entre paysans, puis paysans propriétaires, puis bourgeois des villes
Pour les 13e et 14e siècles, c'est assez compliqué à mesurer.
Des générations.
Alors, ce qu'on fait, enfin, moi, ce que je pratique, mais là-dessus, on a développé un programme spécifique là-dessus sur ces problèmes de hiérarchisation. On utilise la masse documentaire, qui est vraiment très importante ici. On rentre ça dans des grandes bases de données et on fait une analyse quasi statistique. Par exemple, des occurrences des noms de famille pour mesurer l'étendue des possessions, pour mesurer l'étendue des liens sociaux également. On est capable de, sur des groupes, à partir de la fin du XIIIe ou début XIVe siècle, de dire, voilà, ces gens sont très fortement connectés socialement à un panel d'individus très large. Et donc, on voit comme ça se dessiner des hiérarchies sociales à partir de ce type d'approche, mais qui se font, là, les programmes qu'on a développés se sont faits en liaison avec des mathématiciens, puisque c'est des programmes sur l'analyse de graphes, c'est des analyses de réseau. Donc c'est des choses qui sont assez en pointe actuellement à l'Université de Toulouse, l'Université du Mirail. On travaille avec des sociologues et des mathématiciens là-dessus. Mais on est capable de le faire de manière globale, de distinguer, disons, des groupes sociaux, donc des hiérarchies sociales à l'échelle d'une communauté. Et après, ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur un certain nombre d'individus remarquables pour essayer de voir des trajectoires d'individus. On connaît, par exemple, des trajectoires de serfs. Je cite toujours l'exemple d'une famille qui est très très bien documentée, qui est possessionnée dans la région, c'est-à-dire entre ici tout le Bas-Quercy, et qui est une famille de serfs à l'origine, des questeaux, qui est connue dès le début du XIIIe siècle, et qui s'est enrichie par le commerce de la terre, qui est connue par un certain nombre de documents au XIIIe et au XIVe siècle, et qui, en l'espace de 4-5 générations, passe du statut de serf à des statuts de seigneur moyen, puisqu'ils ont épousé la fille de l'héritier d'une petite famille seigneuriale. Et le hasard fait que, ici, au début XIVe siècle, on a un individu qui est devenu pape, qui est le pape Jean XXII, hein, qui est originaire du Bas-Quercy, qui a pratiqué le népotisme à une échelle quasi inconnue jusque-là, et qui, du coup, a donné des revenus à toutes ces petites familles de seigneurs. Et on s'est retrouvé donc avec quelqu'un dont le grand-père était un serf, et qui s'est retrouvé lui-même à la cour pontificale, tout ça en l'espace de 3-4 générations, entre 1250 et 1330-1340. Donc c'est cette manière, pour pouvoir mesurer ces hiérarchies sociales, on essaie de le faire de manière globale, et ensuite, d'avoir ces espèces de trajectoires, alors qui sont en même temps extraordinaires et en même temps certainement pas si extraordinaires que ça. On a probablement des phénomènes. Ce qu'on mesure mieux, c'est les montées. Ce qu'on mesure beaucoup moins bien, c'est les descentes. Elles devaient exister aussi. Hein.
Un mot de polyurcétique, la manière dont les cités ont essayé de se défendre avant même que Vauban en ait l'idée qu'elle copie quelquefois des choses qui préexistaient, les remparts de Saint-Antonin sont remarquables de ce point de vue-là quand Louis XIII essaie de les attraper après avoir rasé Nègrepelisse.
Oui, alors le problème de la défense, c'est quelque chose qui est pas facile à mesurer parce qu'on a souvent des phénomènes de télescopage, on a toujours l'impression que les fortifications qu'on peut observer même sur des plans du 18e par exemple sont des fortifications qui remontent aux origines des agglomérations. Le cas le plus classique, ce sont les bastides, où on dit toujours les bastides sont des villes fortifiées, c'est faux. Les bastides sont toujours des villes ouvertes à l'origine, surtout dans la région. Nègrepelisse, Sept-Fonds, par exemple, c'est un magnifique exemple de ville ouverte.
Et Caylus, son quartier bastide, c'est après avoir détruit les remparts, comblé le fossé et en avoir fait le premier égout du département et la rue principale commerçante. Voilà, la ville est ouverte à partir de là.
Ça c'est vrai, mais Caylus, par contre, n'est pas une bastide. Caylus est un castrum dès le début. Donc Caylus a une fortification dès le début. Donc il existe au Moyen Âge, jusqu'au XIIIe siècle, des agglomérations fermées de type castrum, avec des fortifications plus ou moins bien entretenues. On a du mal aussi à savoir, à intenter si tout est parfaitement opérant, si tout peut fonctionner ou s'il ne faut pas prévoir des réparations s'il y a une période un peu plus troublée. Il y a des villages ouverts, type Sept-Fonds, type Nègrepelisse, type toutes les petites bastides qui peuvent exister dans le secteur, qui sont Beauregard, qui sont des villages ouverts, qui seront fortifiés pendant la guerre de Cent Ans. C'est le cas pratiquement toutes les bastides se fortifient, mais uniquement pendant la guerre de Cent Ans, pas à l'origine. Et après, dernier cas de figure, comment est-ce qu'on fait pour se protéger quand on vit dans un mas ou dans une borde, à distance des chefs-lieux de communes, ce qui est le cas de la majorité de la population. Et là, c'est le troisième cas de figure qu'on connaît, qu'on commence à mieux percevoir, qui est ce qu'on appelle le phénomène des forts villageois. Quelque chose qu'on avait, il y a encore 30 ans, beaucoup de mal à mesurer. Jean Lartigot, pour le Quercy, l'Autois, l'a très bien montré il y a quelques années. Maintenant, on commence à vraiment mieux mesurer le phénomène. On a des constructions de centaines de petites fortifications. Et quand je dis petites, parfois, c'est des fortifications qui sont capables de protéger 5, 6, 7 maisons qui sont situées soit dans des petits villages, soit contre une église, soit contre des petites maisons fortes, des petits. Et l'image du château fort traditionnel où les paysans viennent se réfugier, c'est lié à ces forts villageois de la fin du Moyen-Âge, directement lié à la période de crise des 14e et 15e siècles. Donc la grande période de construction des forts, c'est 1350-1450. On en a encore quelques-uns pendant les guerres de religion, mais ces structures, pour la plupart, ont disparu. Donc on a du mal à mesurer, parce que beaucoup n'ont pas du tout été entretenus après le XVIIe siècle, et autant sur les grandes agglomérations, on peut voir même dans le tracé actuel des rues, on est capable de lire dans le paysage l'emplacement des enceintes. Pour des petits villages, si vous allez à Mouillac, si vous allez à des tas de petits villages ici, à Bâche, on a des forts qui ont totalement disparu du paysage architectural. Vous en avez un à Escamp, par exemple, qui est très bien documenté par un compois. Le fort a été reconstitué en plan à Escamp. À Escamp, quand on voit sur le village, on a du mal à imaginer qu'il ait pu avoir une fortification villageoise là-dedans. Vous en avez des traces à Aujol également. Il y a un des murs, certainement, du fort qui probablement a dû servir de fort.
C'est tout à fait passionnant, on déborderait de l'heure du temps qui nous octroyait. Florent Hautefeuille, maître de conférence à l'université Jean Jaurès, ex Le Mirage, je vous remercie.
Merci beaucoup.
CFM, le mag du pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de tradition populaire. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr dans l'onglet Les émissions. Midi Quercy, toute une histoire.